Eh bien, bonjour à tous, Dieu vous bénisse. C'est un beau dimanche encore. Vendredi soir, je vous parlais de ce que les théologiens appellent la chute dans le jardin d'Éden. Dans ce jardin, ce paradis, eh bien, l'humanité d'alors, elle était au sommet. Au sommet. Mais ils n'ont pas été raisonnables. Vous connaissez l'histoire ? Une loi leur a été donnée, il ne faut pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et il fallait garder ce jardin. Et Adam et Ève n'ont pas fait attention, ils n'ont pas gardé le jardin, un ennemi est entré, discuté avec eux, il les a séduits. Et ils n'ont rien gardé du tout, ils se sont laissés avoir, ils sont tombés de la hauteur où Dieu les avait placés. L'homme, la femme, c'est le sommet de la création de Dieu. Mais ils sont tombés. Et en tombant, eh bien, ils ont dû, et l'humanité entière a dû, passer par un chemin, elle doit y passer, il y a encore, dans un chemin qui est déterminé, la mort. La mort. Adam et Ève, quand ils ont mangé, consommé ce fruit défendu, ils ne sont pas morts sur le champ, mais quelque chose en eux est mort. Et puis ça a fini par la destruction même de leur corps, au bout de quelques temps. Ils ne sont pas morts comme ça. Mais quelque chose en eux est mort. Et la plupart des gens qui vivent sur cette terre ne savent pas qu'il y a en eux quelque chose qui est mort. Ils ont un peu conscience quand même. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose d'autre, mais ils ne savent pas définir quoi, parce que, évidemment, c'est un petit peu comme un aveugle de naissance à qui vous parleriez de la couleur rouge. Comment voulez-vous qu'il ne peut pas concevoir la couleur rouge, la couleur jaune, il est aveugle de naissance. Eh bien, la même chose pour quelqu'un qui vient au monde dans cet état de chute, mais on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est de vivre vraiment. Parce que cette mort, ben, il est né avec. Il y a quelque chose qui est mort en nous. Et voyez-vous, si nous faisons des grandes découvertes scientifiques, malgré le fait qu'on fait des grandes réalisations technologiques, aujourd'hui c'est fantastique. Hier soir, on a regardé un film avec les enfants, Jurassic Park, c'est un vieux film. Ça fait près de 20 ans maintenant qu'il existe ce film-là. Ils ont bien rigolé. Moi, je me rappelle quand ce film est sorti, ça faisait peur à tout le monde. Mais 20 ans après, ça fait rigoler les enfants. Et dans ce film, à un moment donné, on voit un écran. Et alors, ils sont tout fiers de dire, d'expliquer que c'est un écran digital, qu'en touchant comme ça. Je dis, c'est vrai, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Et maintenant, on a tout ça, quoi, enfin, à peu près. C'était de la science-fiction. On a fait des découvertes. On a des choses extraordinaires. On s'habitue à tout ça. Nos réalisations technologiques, mais même avec tout ça, même s'il nous semble qu'on est civilisé, mais on n'a pas beaucoup évolué dans notre caractère, on en est quand même toujours à l'âge de la pierre. Alors, l'être humain est véritablement une bête féroce. C'est toujours dans les ténèbres moraux, dans les ténèbres spirituelles, que l'homme se balade sur cette terre en tâtonnant, cherchant, parce qu'il a plus ou moins conscience qu'il y a quelque chose d'autre. Il ne sait pas exactement quoi. Alors, il s'est inventé des religions parce qu'on a besoin de grandeur, on a besoin d'avoir quelqu'un au-dessus de nous. Alors, on dit, on sait bien qu'il y a quelqu'un, on ne sait pas exactement qui. Alors, les uns disent c'est celui-ci, d'autres disent c'est celui-là. Il y en a qui viennent annoncer des vérités extraordinaires, qui ne prétendent jamais être Dieu. Mais les humains ont besoin de Dieu, alors ils font de ces êtres humains des dieux. Comme Bouddha, par exemple, on dit que... Mais Dieu, Bouddha n'a jamais dit qu'il était un dieu. Il a dit des choses formidables, mais il n'a jamais dit « je suis Dieu ». Mais ce Jésus qui a dit « je suis Dieu », ah, alors là, non, on ne le veut pas. La plupart des gens ne le veulent pas. Même ceux qui se disent chrétiens, en fait, ils vivent comme si Jésus n'avait jamais rien fait, ni jamais rien dit. En fait, les religions que l'homme s'est inventées, ça les a rendues plutôt pires. Au nom de ces religions, ils se sont montrés cruels, meurtriers, intransigeants, implacables, lâches, très souvent. Enfin, l'homme et la femme se débattent dans les ronces de la méchanceté, dans les broussailles de la médiocrité et de la bêtise. Voilà. La haute technologie, à quoi sert-elle aujourd'hui, la plupart du temps?
Allô, ça va? Oui, ça va. T'es où? Ça va? Oui, moi, ça va. Oui, ça va. Voilà.
C'est terrible, mais bon. Voilà. Là encore, je suis gentil parce que beaucoup d'autres choses sont encore bien pires que ça. L'homme ne sait pas, il ne le sait pas, mais plus rien ne dépend de lui. Plus rien ne dépend de lui. C'est comme quand quelqu'un a fait, il est au bord d'un précipice. Vous voyez, il y avait un président en France qui avait dit « Nous sommes au bord du précipice, mais j'ai confiance en vous, peuple français, on va faire un pas en avant. » Vous ne vous rendez pas compte ce qu'il dit. Hop ! Voilà, bon ben voilà. Le pas en avant, ils l'ont fait, Adam et Ève, ils sont tombés, on est en train de tomber, on est toujours en train de tomber. Et rien, plus rien ne dépend de nous. La chute, c'est la chute, c'est la chute, c'est la chute. Depuis que l'homme et la femme sont séparés de Dieu, il y a eu un mouvement qui a été déclenché et on n'est plus libre. On tombe, on est en train de tomber. À peine on vient au monde que déjà on a les vers qui nous bouffent. Est-ce que vous savez ça? On n'est plus libre. On ne peut plus retrouver le sommet d'où nous sommes tombés. Ce n'est pas possible, c'est fini. Alors l'homme essaye, il essaye, mais c'est une ascension difficile. Hein? Frères et sœurs, dès que l'homme a quitté le sommet, la femme aussi, il ne faut pas oublier, hein? Eh bien, l'humanité a été obligée de subir des lois, les lois d'un monde sur lesquelles ils ne peuvent rien. Tout est géré maintenant par des lois. La loi de la pesanteur, la chute. Mais il y a toutes sortes de lois, puis il y a des lois morales, il y a des lois physiques, il y a des lois spirituelles, il y a toutes sortes de lois. Nous ne sommes plus libres maintenant, nous sommes dépendants. Alors que Dieu avait fait de nous le sommet de la création, il nous avait donné la domination sur toute chose. Et pour garder notre liberté paradisiaque, nous aurions dû rester auprès de Dieu. Mais nous n'avons pas voulu, nous avons fait un mauvais choix. Nous aurions dû rester auprès de Dieu parce que là, tout l'espace nous appartenait. Dans cette position avec Dieu, eh bien, tout dépendait de nous. Dieu nous avait donné une liberté extraordinaire. C'est l'homme qui avait choisi de dire, voilà, ça c'est une vache, ça c'est un kangourou, ça c'est... On avait des libertés de faire, d'agir, d'action. Mais qu'une chose qui était interdite, on a foncé pour le faire. Non, mais quand même. Là, on avait véritablement une réelle autorité sur tout ce qui existe. Dieu avait tout créé pour que nous dominions sur tout, avec amour, avec respect, avec subtilité. Maintenant, on cherche à dominer par la force, par la ruse, par la tromperie, par la corruption. Nous étions entièrement libres, réellement libres. Et nous ne le sommes plus parce que nous avons l'humanité, nos anciens, nos grands-pères, arrière-arrière-grands-pères, Adam et Ève, ont commis une erreur. Mais cette erreur, bon, on peut leur en vouloir, hein. Mais franchement, honnêtement, nous commettons tous la même. Elle est répétée, cette erreur, sans cesse, génération après génération, tout le temps. Quelle erreur? L'erreur, c'est de confondre la liberté avec le droit de faire ce que nous voulons. On n'a pas le droit de faire ce que nous voulons. C'est pas ça la liberté. La liberté d'Adam et Ève, c'était juste de choisir d'obéir à Dieu ou pas. Et ils ont choisi de désobéir. Et depuis, l'humanité ne peut plus échapper aux conséquences de ce choix. On est dedans. Maintenant, toute cette histoire... Ça n'a pas existé sans le consentement de Dieu. Dieu était au courant de tout ça, cette destinée, c'était prévu d'avance par Dieu, ça fait partie de son plan secret qu'il révèle dans la Bible. Et il nous explique comment ça va se dérouler. Il donne des prophéties. C'est un livre, si vous enlevez les prophéties, il ne reste plus grand-chose, un peu de morale, comme dans toutes les religions. Et puis pour confirmer que c'est la vérité, Dieu produit des miracles, des choses que l'homme ne peut pas faire. Encore dernièrement, j'ai vu, après la prière, des aveugles retrouver la vue. J'en ai vu deux, là, en l'espace de 10 jours. Mais après, simplement la prière. J'ai vu 3 paralytiques se mettre debout, se mettre à marcher. C'est des miracles. On a vu des sourds entendre, des muets parler. Ce que la Bible raconte, ça se fait toujours aujourd'hui pour confirmer que ce que les prédicateurs disent est vrai. Et ce livre est plein de prophéties qui s'accomplissent les unes après les autres. Tout ça... Tout ce qui arrive, c'est dans le plan de Dieu, mes frères et sœurs. L'homme s'est éloigné de Dieu au jardin d'Éden, mais Dieu n'était pas opposé à ça. Dans son plan secret, parce qu'il a un plan secret qu'il révèle dans la Bible, pour ceux qui veulent bien chercher, ils trouvent. Jésus a dit, celui qui cherche, il trouve. Dans son plan secret, toutes ces choses-là, tout ce qui est arrivé devait arriver. Sinon, Dieu qui est tout puissant, il aurait très bien pu empêcher cette chose-là. Il ne l'a pas empêché parce qu'il a un but, il a une raison. Et il n'explique pas ses raisons à tout le monde. Et en particulier, il n'explique pas ses raisons aux gens qui se moquent de lui, qui critiquent, qui sont toujours en train de râler, mettre en doute son existence même. Il ne va pas révéler tout ça à n'importe qui. Il le révèle à ses enfants. Parce que Dieu a des enfants. Dieu est le Père, il est notre Créateur. Il a des enfants. Et quand nous étudions ces choses, eh bien, ça nous aide à comprendre beaucoup de choses que les incrédules ne comprennent pas. Tout ce que fait l'homme, mes frères et sœurs, n'est possible qu'avec le consentement de Dieu. Ça peut paraître monstrueux, mais est-ce que vous êtes assez capable pour pouvoir juger? Est-ce que vous avez les tenants et les aboutissants de tout? Est-ce que vous pouvez juger Dieu? Non, mais attendez. Même mon chien ne peut pas me juger. Alors moi, je vais juger Dieu. Dieu, dans la Bible, il a annoncé comment les choses arriveraient siècle après siècle. Nous savons, par ce livre, où nous en sommes très précisément. Nous savons encore, il y a très peu de choses qui doivent arriver encore. Nous connaissons ce qui doit arriver avant que Jésus revienne poser ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem et prendre le gouvernement du monde. Encore deux, trois choses qui doivent arriver. Ce n'est pas beaucoup. Et ça, nous savons que c'est pour notre génération. La Bible dit, quand Israël redeviendra une nation, la génération qui verra ça, verra mon retour et mon règne. C'est pour nous. Nous sommes la seule génération. Depuis 2500 ans, Israël n'était pas une nation libre. Et voilà que tout d'un coup, c'est une nation, selon les prophéties. Dieu, dans la Bible, a annoncé que ces choses arriveraient. Et ce qu'il a annoncé par ses prophètes dans le livre, ça se réalise à la lettre. Aucun geste humain, mes frères et sœurs, aucune parole humaine n'a le pouvoir de changer le plan de Dieu. Maintenant, l'homme se trouve de nouveau, chacun pour lui-même, devant un choix, revenir à Dieu ou pas. Et ça, c'est le drame de tout homme, de toute femme. Dieu, pour venir nous parler, pour nous expliquer les choses, il a envoyé d'abord des prophètes, ensuite il est venu lui-même dans un corps d'homme. Certains le contestent en disant, Dieu ne peut quoi? Dieu ne peut pas quoi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu est tout puissant. Et s'il décide de venir dans un homme, il peut venir dans un homme. Et comme il est issu de Dieu, venu dans un homme, limité dans un homme, on l'appelle fils. Mais il est évident que Dieu n'a pas de fils, comme nous avons des fils. C'était Dieu lui-même dans un corps d'homme. Il a voulu naître comme nous sommes nés, il a voulu vivre comme nous avons vécu avec nos limitations. Il est venu nous montrer comment un être humain doit se comporter véritablement, avec amour, avec respect, avec force. Dieu s'est fait homme et il n'a pas pu faire autrement que de se manifester comme Dieu. Il a fait des choses extraordinaires qui sont relatées là dans le livre et il continue à les faire parce qu'il est ressuscité. Dieu, dans les prophètes, par les prophètes, avait annoncé cette venue. Il avait même dit que il naîtrait au travers d'une vierge. Il avait même donné le nom de la ville, Bethléem. Il avait dit qu'on l'appellerait Père éternel. Ça s'est accompli. Il avait annoncé par les prophètes que cet enfant grandirait, plein de sagesse et de grâce, et puis qu'il finirait très mal, mis à mort, frappé, humilié, battu, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. C'était la crucifixion et le procès, tout ça, c'était une véritable boucherie. Cette prophétie s'est accomplie. Dieu avait annoncé par les prophètes que cet homme serait sacrifié, c'est-à-dire tué à notre place, mais que la plupart des gens ne comprendraient pas. Dieu avait dit, puisque vous avez péché, vous mourrez. Hein? Si vous goûtez le fruit défendu, vous mourrez. Eh bien, le péché, tout homme pêche, toute femme pêche, et nous sommes tous condamnés à mort, puisque tout homme qui pêche est condamné à mort. Mais Dieu est venu dans un corps d'homme, et il s'est proposé comme sacrifice, il est mort à notre place. C'est-à-dire que nous qui méritions à cause de nos transgressions un châtiment, la mort, il est venu et il a pris ce châtiment sur lui, il est mort à notre place. Cet homme rempli de Dieu, de l'Esprit de Dieu, en qui a été habité la plénitude de Dieu, est mort à notre place afin que nous ne mourions pas. Jésus est mort afin que la malédiction qui est sur chaque homme, sur chaque femme, tombe, soit annulée, soit abolie. La Bible dit, il est devenu malédiction à notre place. Il est devenu maudit à notre place, cet homme en qui Dieu habitait, en mourant à notre place sur la croix. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? On a un choix. Alors certains ont fait une religion avec ça. Ils ont fait du pognon avec ça. Ils ont fait toutes sortes de choses, des horreurs, avec des guerres avec ça. Voilà ce qu'on a fait. La plupart des choses, voilà ce qui a été fait. Mais il y a toujours un petit reste de gens qui ont compris le message de Dieu, de croire en lui, de le respecter. Parce qu'on se trouve devant le choix de nouveau, croire ou ne pas croire, accepter ou ne pas accepter ce plan annoncé depuis des millénaires par les prophètes. Croire ou ne pas croire. Se conformer au plan de Dieu ou le rejeter, le mépriser, s'en moquer, blasphémer. On ne peut pas être neutre dans cette histoire. On ne peut pas être neutre, on n'en a pas le droit. Notre choix révèle la qualité de notre cœur. Alors comme Adam et Ève ont dû choisir, eh bien nous avons à choisir. C'est le seul choix qui nous est proposé par Dieu. Il ne nous dit pas de choisir une religion, il nous dit pas de... on ne choisit même pas nos parents, on croit qu'on choisit nos amis, on croit plein de choses, les gens croient dans le libre arbitre, toutes sortes de choses. En fait, on est conduit, dirigé. Dieu veut nous amener à croire ou à ne pas croire en lui. C'est le seul choix. Si nous choisissons de ne pas tenir compte de l'amour de Dieu qui nous a tellement aimés qu'il est venu comme un sauveur, Jésus est le sauveur, eh bien, nous n'avons plus de choix de vie possible. Nous n'avons plus de choix de vie possible. Nous faisons le pas dans le précipice. Et alors, nous sommes emmenés vers le bas, c'est-à-dire vers la désillusion, vers les fausses joies, vers le misérabilisme, vers l'esclavage de toutes sortes de passions et de choses, vers la misère, vers la souffrance, vers la mort, et puis voilà, et puis alors après, on voit des gens qui sont remplis, n'est-ce pas, à 20 ans, hein, on est rempli d'espoir, on pense que les vieux, ils ont, nous on va, hein, on va leur montrer, et puis quand on devient vieux, ben on les voit, les vieux, la tronche qu'ils font, pourquoi? Parce que ça n'a été que désillusion. Faut être honnête. En fait, l'humanité entière est en train de courir bêtement vers le bas. Se vantant d'être sage, Jésus dit, ils sont devenus fous. Ils se croient libres, libre arbitre, ils se croient libres. Ils sont esclaves de tout ce qui triomphe d'eux, de leur passion, de leur limitation, de leurs pensées corrompues. Et pour illustrer ce que je vous dis, je voudrais vous lire un texte sacré qui se trouve dans Luc, au chapitre 15, versets 11 à 24, l'évangile de Luc, si vous voulez lire avec moi. Luc 15, 11 à 24, on se met debout. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais me lever, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons-le, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans cette parabole, Jésus raconte mon histoire, ton histoire, l'histoire de l'humanité. Le fils voulait voyager. Pourquoi l'empêcher? Le père savait très bien qu'il allait avoir des problèmes, qu'il allait tout claquer, tout son pouvoir, tout son avoir, il allait dépenser tout ça, toutes ses forces, son énergie, toutes ses illusions. Il finirait par avoir faim, il aurait froid, il aurait soif, il souffrirait. Il le savait, mais bon, il a laissé faire. Il savait aussi qu'un jour, le fils, il comprendrait qu'en fait, il n'y a personne qui peut l'aimer comme lui l'aime, lui qui l'a créé. Il n'y a personne qui peut t'aimer comme Dieu t'aime, personne. Alors le père, il savait qu'un jour, il reviendrait ce fils. Et puis, il savait déjà aussi que lui, il l'accepterait ce jour-là. Mes frères et sœurs, c'est bizarre comment les religions essayent toujours de nous faire croire que Dieu est furieux de la faute de ses fils et de ses filles, des hommes et des femmes qu'il a créés. Dieu est furieux. Oh, vous avez péché. Je suis en colère contre vous. Le fils, il est parti, il est mort. Il était comme mort. Attendez, c'était un juif, il était en train de garder des cochons. Qu'est-ce qui peut arriver de pire à un juif que de garder des cochons? C'était la mort. Il était déchu, il n'avait plus rien, il ne pouvait même pas manger ce que les cochons bouffaient. C'était la mort. Son père au pays, dans la ferme, il n'était pas furieux, il n'était pas fâché. Bon, tu le veux, ben vas-y. Le Seigneur a laissé faire. Le Seigneur a toujours des bons projets pour toi, toujours. Il a des bons projets, mais il te laisse faire, il attend, il est patient, il attend que tu comprennes. Il s'est dit, tôt ou tard, mes véritables enfants, ils vont revenir. Il va revenir. Quand il aura suffisamment souffert, quand il aura compris que c'est pas comme ça la vie, que c'est pas bien, et ben, quand il reviendra, il sera peut-être couvert de poussière, il sera peut-être malade, il sera peut-être en guenille, il sera affamé de toutes sortes de choses, de vérité, d'authenticité, de vérité. Il sera... Mais c'est pas grave. S'il revient, au moins il se sera assagi parce qu'il aura compris que tout seul. Alors je lui préparerai un festin. Voilà ce que pensait le père. Mais en attendant, eh bien, l'humanité a choisi de descendre et on est tous là en train de descendre. Et on ne peut pas revenir tout de suite à la maison paternelle. Dieu, il veut qu'on goûte d'abord. Hein, voilà, tu as fait des choix, ben voilà, tu goûtes les conséquences maintenant. Tu dois poursuivre ton expérience jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu aies réellement compris, pas que tu viennes simplement, voilà, j'ai tout dépensé, mais je reviens avec mon sale caractère, et puis je vais avoir mon christianisme, ma façon de voir, ma façon de vivre. Non, il faut que tu sois bien brisé, que tu aies bien compris, puis après tu peux revenir à Dieu. Est-ce que tu as été jusqu'au bout de ta souffrance? Est-ce que tu étais jusqu'au bout? Ou est-ce que tu as encore des illusions? Oui, non, mais à mon avis, si je fais encore ça, peut-être je peux m'en sortir. Si tu es encore là, bon vent, continue. Continue, Dieu n'est pas fâché, fais ce que tu veux. Mais sache que la mort, elle ne pose pas de carte de visite pour annoncer qu'elle va arriver. Un jour ou l'autre, clac, et après c'est trop tard. Il y a juste ça. Il faut quand même que je te le dise, il y a juste ça. Est-ce que tu n'en as pas marre? Est-ce que tu as encore des espoirs que tu vas pouvoir t'en sortir? Est-ce que tu ne vas pas rentrer en toi-même comme ce fils prodigue est rentré en lui-même? Et il a pensé, oh là 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 là, si j'étais chez mon père, même les ouvriers, ils ont plus que moi ce que j'ai. Il s'est dit, bon, je vais retourner. Et l'image de ce paradis, elle est confuse en toi, l'image de la maison du Père, c'est confus en toi, c'est enfoui au fond d'une vieille mémoire d'humain dans tes gènes. Il y a quelque chose qui te dit qu'il y a un paradis, qu'il y a quelque chose, il y a mieux que ça. Mais quoi? Cette vie avec Dieu, ton esprit sait très bien ce que c'est. Et tu en as parfois la nostalgie des fois tu pries. Ou alors des fois, tu regardes un beau paysage ou tu entends une belle musique et puis tu es ému, il y a quelque chose qui se réveille en toi. C'est ce souvenir de la perfection, du paradis, des belles choses. Alors tu te sens bien pendant un moment, tu es rassuré. Ah, tu es apaisé, tu te sens bien, tu es là. C'est merveilleux. Mais ça ne dure pas, ça ne dure pas. Tu retournes à tes préoccupations prosaïques, banales, vulgaires. Tu retournes à tes cochons, tu retournes à tes idéaux qui manquent de noblesse. Tu es un fils de Dieu, tu as été créé par Dieu, tu es là avec des cochons. Alors toutes ces belles émotions, toutes ces belles, ça s'efface tout d'un coup, ça s'en va, puis tu oublies, tu oublies ce subtil, tu oublies cette beauté, cette perfection que tu as vécu un petit moment en écoutant une belle musique ou quelque chose comme ça. Et puis tu te dis, bof, c'est des illusions, faut pas que je m'arrête à ces choses-là, c'est des trucs de sentiments de vieille bonne femme. Mon frère, ma sœur, ce ne sont pas des illusions, c'est juste des signes du ciel, le ciel qui s'ouvre un peu pour te donner la direction, pour te montrer, voilà, il y a autre chose. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette autre chose? Reviens à la maison. C'est la voix de ton père qui te dit, reviens à la maison. Reviens à la maison. Mon frère, ma sœur, Dieu n'a pas envie du tout de discuter avec toi au sujet de comment il a créé les cieux et la terre. Ce livre-là, il y a près de 1500 pages. Il y a juste une page qui raconte à peu près comment Dieu a créé les cieux et la terre. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas te donner des explications? Pourquoi il y a des noirs, pourquoi il y a des blancs, pourquoi il y a des jaunes, pourquoi il y a des continents, pourquoi ceci, pourquoi cela. Parce que ce n'est pas important pour toi. Ça n'est pas important pour toi. Ce qui est important pour toi, c'est que tu fasses la paix avec ton Créateur, tu fasses la paix avec Dieu. Après toutes ces choses, s'il veut, il te les expliquera. Il te donnera des explications. Mais en fait, il ne te doit aucune explication sur comment il a fait les choses. Rien. Il a rien du tout. Ce n'est pas important. Ce qui est important pour toi, c'est que tu retournes à la maison du papa, que tu retournes au paradis, que tu retournes, que tu reçoives, que tu te réconcilies avec lui, que tu sois humble une fois dans ta vie, que tu reconnaisses que tu t'es trompé, que tu as payé les conséquences et maintenant. Laisse ton Dieu te restaurer dans ta position de fils. Et de fille, d'enfant de Dieu, revêtu dignement, accepte ce festin que Dieu veut te donner dans ta vie maintenant. Et il n'y a qu'une porte, il n'y en a pas deux, il n'y a qu'une porte, il faut que tu passes par Jésus-Christ. Il faut que tu croies dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a dit. Il a prouvé son amour. Il est mort afin que tu n'aies pas à mourir. Il t'a tellement aimé qu'il a porté ton péché sur la croix, ta faute, il l'a porté. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Le plus important, c'est que comme le fils de la parabole, tu reconnaisses ton péché. Le plus important, c'est que tu reconnaisses que tu as mal agi, que tu es pas heureux. Comme l'homme, là, le fils, il a reconnu, je ne suis pas heureux. Alors, il a dit, je vais me lever, et puis je vais aller vers mon père, puis je vais lui dire, je ne vais pas aller vers un curé, je ne vais pas aller vers un imam, je ne vais pas aller vers un pasteur, je vais aller vers mon Dieu, je vais aller vers mon papa, je vais aller vers mon Créateur, et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Voilà ce que Dieu attend de toi. Il ne va pas venir te chercher. De temps en temps, il soulève un peu là, et il te parle, comme ce matin, il soulève un peu, il te parle. Mais il ne va pas venir te chercher, c'est à toi de te lever et d'aller. De faire un pas. Lui, il a déjà fait le pas. Il est venu comme un homme sur cette terre pour nous parler, pour nous montrer comment est-ce qu'on doit se comporter. Ensuite, il est mort à notre place. Tout ça, c'est écrit là. Tu peux le lire, tu peux apprendre beaucoup de choses. Il a fait déjà tout. Tout est accompli par lui. Tout ce qu'il doit faire, il l'a fait. Maintenant, à toi de te lever et d'aller vers ton père. Le feras-tu? Ou est-ce que tu vas rester bêtement avec tout le monde en train de tomber? Puis à la fin, te retrouver dans un cercueil. Si tu viens à lui, il ne te rejettera pas. C'est une histoire d'amour. Mais on ne force pas l'amour. Si le fils n'avait pas voulu rentrer, il ne serait pas rentré. Le père ne l'aurait pas forcé. Quand on aime, on ne force pas les gens. C'est une histoire d'amour, mais est-ce que tu es capable de recevoir un tel amour? Est-ce que tu es capable toi-même d'un tel amour envers ton Père, ton Créateur? Est-ce que tu es assez humble pour dire oui, c'est vrai? Je sais bien que c'est vrai. Toute la vie des humains, mes frères et sœurs, intellectuelle, morale, spirituelle, toute la vie des humains peut se résumer à ces deux mots, descendre ou monter. Tu fais quoi en ce moment? Tu descends ou tu montes? Monter, ça signifie adopter le point de vue de Dieu. Descendre, ça veut dire adopter le point de vue des gens. Oh voilà, les gens. Tu trouves que c'est bien, toi, la Terre? Tu trouves que c'est bien? Tu trouves que c'est formidable, ce que les gens font? Tu trouves que c'est génial? On appelle ça l'évolution. Mais moi, j'appelle ça la déchéance. Pourquoi j'appelle ça la déchéance? Parce que Dieu appelle ça la déchéance. Maintenant, que l'homme, que nous sommes tous descendus dans la matière, au ras du sol, on ne peut plus vivre sur cette terre comme des purs esprits. Même quand tu auras fait la paix avec ton Dieu, il y aura du boulot encore. Il va falloir apprendre beaucoup de choses et puis discipliner ton corps, discipliner tes pensées, discipliner ton langage. Ça, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la vie par la foi dans la sanctification, la mise à part pour Dieu. C'est être humble, c'est reconnaître qu'on a fait une erreur. Et puis quand on en est là, à ce point, Dieu nous relève et puis il nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est vrai, mais pas comme ça. Petit à petit. Mais on le sait, on le vit, et c'est beau. Mon frère, ma sœur, Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Les gens, quand ils viennent au monde, ils naissent, mais quelque chose est mort en eux. Et ce que Jésus veut, c'est que tu naisses de nouveau. C'est-à-dire que ce qui est mort en toi, ça va prendre vie. C'est cette vie de relation avec ton Père. C'est cette vie de fils, de fille, de Dieu, qui est rétabli dans sa position, ce pourquoi l'homme a été créé, ce pourquoi la femme a été créée, pour être quelqu'un de digne de son Père sur cette terre, digne de son Créateur. Qu'est-ce qu'il y a de plus pire qu'un fils qui fait honte à son père, honte à sa mère? Eh bien, si tu veux être rétabli dans ta position de fils et de fille de Dieu ce matin, quoi que tu aies fait dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, même si tu en es au point de garder des cochons, tu peux revenir à ton Père. On va tous se mettre debout, on va fermer les yeux et on va prier. Ce matin, il y en a qui vont se mettre en ordre avec leur Dieu parce qu'ils ont fait des choses, ils ont pensé des choses, ils ont agi d'une manière qui n'est pas digne. Ils ont agi d'une façon mesquine, ils ont agi d'une façon qui n'est pas digne d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, d'un être créé par Dieu. Père, alors que tous les yeux sont fermés, je te prie de bénir chacun et chacune et que la parole que j'ai annoncée ce matin, elle reste gravée dans le cœur de chacun et de chacune, que tu aimes chacun et chacune et que tu attends qu'ils reviennent, simplement. S'il y a quelqu'un qui veut revenir ce matin à toi, qui veut faire la paix avec toi, vous mettez votre main sur votre cœur, tous les yeux sont fermés, mes yeux aussi sont fermés, tous les yeux sont fermés, vous mettez votre main sur votre cœur et je prierai pour vous. Mettez votre main sur votre cœur si vous voulez revenir à votre Père. Ça sera le signe que vous voulez revenir à votre Père. Et je vais prier pour vous. Seigneur mon Dieu, je te prie pour ceux qui ont mis leur main sur leur cœur. Tu vois, ce sont des gens qui ont compris. Ils ont compris qu'ils ont quitté la maison, ils ont quitté la sainteté, ils ont quitté la beauté, ils ont quitté la noblesse pour vivre dans ce monde un peu comme tout le monde, en faisant des choses dont ils ne sont pas fiers. Ils te demandent pardon ce matin. Ils disent, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, mais je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais Seigneur, reçois-moi quand même. Fais de moi ce que tu veux. Père, je te demande que leur péché soit effacé maintenant, qu'ils soient purifiés par toi, lavés par toi, revêtus de sainteté par toi, et qu'ils puissent entrer dans la salle du festin, manger tout ce que tu as à leur donner à manger, boire tout ce que tu as donné à leur donner à boire, physiquement, spirituellement, matériellement, que tu prennes soin de chacun d'eux. Père, fais-les naître une seconde fois par ton Saint-Esprit, je te le demande, dans le nom béni de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que les musiciens s'approchent. Oh Jésus, gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.